Bonjour Mehdi Benlassane.
Bonjour.
Vous êtes conseiller consulaire sortant, et vous venez nous rencontrer parce que vous avez décidé de vous représenter. Donc le but est de présenter votre équipe, votre bilan, votre programme et votre vision du rôle des conseillers consulaires dans cette nouvelle organisation. Écoutez, on vous laisse vous présenter et présenter votre liste dans un premier temps.
Ben, merci beaucoup, Jean-Guillaume. J'ai la chance, comme en 2014, de mener la liste Français du monde citoyen solidaire au Portugal. En 2014, nous avions eu la chance d'arriver en tête de cette élection et d'avoir deux élus, c'est-à-dire Francisca Castro et moi-même. Nous nous représentons cette année et nous menons de nouveau cette liste avec la même, on va dire, la même philosophie, une équipe différente, mais qui correspond aux idées que nous défendons, qui correspond à la manière dont nous voyons le mandat et donc la manière dont nous voulons construire.
Ouais.
Les sept personnes qui composent la liste sont des personnes qui sont installées durablement au Portugal depuis un certain nombre d'années, qui sont soit, alors on a coutume de dire luso-descendants pour certains, soit mariés et installés au Portugal avec des Portugais ou Portugaises de longue date. Voilà, donc ça correspond, on va dire, à la sociologie des Français du Portugal, même si elle a évolué ces dernières années. Il y a des gens qui sont installés, on va dire, entre 2016 et aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'arrivées et des Français du Portugal avec une nouvelle sociologie, une nouvelle philosophie, une nouvelle manière d'être et de faire.
Un
Donc, on
rajeunissement
a
un petit
essayé
peu
d'en tenir
de la
compte.
population? Un rajeunissement de la population?
Alors, il y a les deux phénomènes. Il y a effectivement, c'était le phénomène le plus visible, l'arrivée de retraités. Donc, on a une personne retraitée sur la liste, je viendrai plus tard. Et il y a effectivement eu un rajeunissement, enfin l'arrivée, on va dire, de nouveaux actifs, de nouveaux entrepreneurs à partir de 2016, 2017, 2018. Donc,
D'accord.
Francisca Castro sera ma seconde de liste. Les Français du Portugal la connaissent bien, puisqu'elle est déjà conseillère des Français de l'étranger depuis 2014. Elle est par ailleurs notaire. À Cascais aujourd'hui, après l'avoir été à Esposende pendant de nombreuses années. Donc, c'est quelqu'un qui est à la fois localisé au nord du Portugal, puisque sa famille vit toujours à Esposende et à Cascais. Elle est par ailleurs vice-présidente de la Chambre des notaires portugaise et membre du conseil d'administration des notaires d'Europe. Donc, c'est quelqu'un d'assez solide sur tout ce qui est dossier juridique et voilà, tout ce qui est droit à la succession, fiscalité, etc., etc., qui est une personne ressource, on va dire, d'exception. Et qui nous permet à la fois d'être intégrés dans la société portugaise et dans les instances portugaises, même si, on y reviendra peut-être plus tard, le rôle des conseillers des Français d'étranger n'est pas d'intervenir dans la politique du pays portugaise.
Oui, bien entendu.
En troisième position, Philippe Raposo nous fait l'honneur d'être sur cette liste. Les Français du nord du Portugal le connaissent bien, puisque Philippe a été pendant très longtemps vice-président de l'AFNP, l'Association des Français du nord Portugal. Il est avocat de profession, parent d'élève au lycée français de Porto. Donc, voilà, une personnalité encore bien connue des Français du Portugal et bien ancrée dans la communauté à la fois française et portugaise. En quatrième position, nous avons Karima Guerjouz, qui est localisée sur Pombal, donc plutôt dans le centre-ouest, qui est au Portugal depuis 1998, qui est mariée avec un Portugais, qui a longtemps travaillé pour la mairie de Pombal. Donc, c'est pareil, elle est, même si ce n'est pas notre rôle, elle est quand même bien intégrée dans les arcanes, on va dire, administratives portugaises. Et ça peut être une chance pour les Français de cette région, d'autant plus qu'on déplore aujourd'hui la fermeture du consulat honoraire de Leiria. Donc, avoir une personne ressource qui est là depuis longtemps, intégrée auprès des autorités portugaises, je pense que c'est une vraie plus-value pour la liste et pour les Français du Portugal. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est entrepreneuse, puisqu'elle a monté. Elle a monté sa société il y a 2 ans. Voilà. En cinquième position, nous avons Pierre Guibert, qui est photojournaliste, bien connu sur Lisbonne, puisqu'il a dirigé pendant de nombreuses années la FCPE, donc l'association de parents une des deux associations de parents d'élèves du lycée français Charles Lepierre. Donc il est effectivement très au fait de tous les problèmes de scolarité du lycée. Il a tout l'historique, on va dire, quelque part, de tout ce qui est chantier, augmentation des effectifs. Donc, même si moi, j'ai de mon côté un autre historique en étant
Oui.
enseignant au lycée,
Oui, a
C'est quelqu'un
priori.
qui vient compléter, on va dire, l'équipe en termes de solidité sur les questions éducatives.
OK.
En sixième position, nous avons Karina Raposo, qui est aussi au nord du Portugal, qui est à Porto, qui est infirmière, qui fait partie de l'ordre des infirmiers au nord du Portugal. C'est quelqu'un d'important dans le sens où on voit aujourd'hui l'importance qu'ont pris les questions de santé et les questions sociales, notamment pour la population retraitée qui s'est installée au Portugal. Et donc, je pense que c'est une plus-value d'avoir aussi cette personne sur la liste, puisqu'elle est très au fait de ces questions, intégrée de par sa participation à l'Ordre des infirmiers aussi aux entités portugaises. Donc, ça nous permet effectivement de relayer les dossiers du mieux possible et d'avoir des portes d'entrée dans les autorités portugaises, encore une fois, même si ce n'est pas notre rôle premier.
Ça peut
Et
toujours
enfin,
servir.
en septième position, nous avons Patrick Raffin, qui est un retraité qui se situe en Algarve. On va dire que c'est la personne la plus récente sur la liste, puisqu'elle est arrivée il y a 2 ans au Portugal. Mais elle correspond effectivement à cette nouvelle sociologie des Français du Portugal. Donc, c'est on va dire, une liste qu'on a voulu équilibrer, représentant les diversités des Français du Portugal, avec à la fois des fonctionnaires comme moi, des indépendants, des entrepreneurs, des retraités, des luso-descendants, des gens qui sont totalement intégrés à la vie portugaise et à la société portugaise, à la communauté portugaise. Donc je pense que la richesse de cette liste peut nous permettre de mener à bien la mission, ce qu'on attend des conseillers des Français de l'étranger.
Ok, et d'ailleurs, bah, à ce propos, c'est peut-être le moment d'enchaîner là-dessus. Quelle est votre vision ou votre définition du rôle des Français du Portugal? Qu'est-ce que vous proposez, vous, dans l'accomplissement de cette mission?
Alors, je vous remercie de me poser cette question, puisque voilà, le débat électoral a déjà démarré depuis quelques semaines. Et c'est vrai que je peux être un petit peu surpris de ce que je peux entendre à droite ou à gauche en termes de définition du rôle des conseillers des Français d'étrangers. Le conseiller des Français d'étrangers, il a pas, enfin, il a une compétence qui est définie par la loi. On donne un avis et on est consulté sur toutes les politiques publiques concernant les Français d'étranger sur des thématiques particulières, à savoir l'éducation, les affaires sociales, l'emploi et la formation professionnelle et la sécurité. Sur tout le reste, nous n'avons pas de compétences, ou si nous agissons, on va dire qu'on agit en tant que, moi j'ai coutume de dire, accélérateur
D'accord.
d'opportunités. Voilà. On essaye de mettre les gens en réseau, on essaye de faciliter leur arrivée, on essaye de leur présenter des gens quand ils ont tel ou tel souci, mais ce n'est pas notre champ de compétence. On joue souvent le rôle d'assistante sociale sans être réellement des assistantes sociales de la communauté française installée au Portugal ou à l'étranger. Donc il faut savoir raison garder, je pense, sur ce que l'on peut faire, est-ce que l'on doit faire, est-ce que l'on peut réellement faire, et à la fois dans nos propositions et à la fois dans notre mode d'action. J'en parlais un petit peu en préambule, mais un conseiller des Français d'étranger n'est pas un élu français dans la vie politique portugaise. Nous n'avons pas de moyens d'agir dans la vie politique portugaise, même si nous avons, entre guillemets, une entrée ici ou là et que nous essayons de faire remonter certaines interrogations. Je l'ai fait moi-même, par exemple, sur la question du RNH, en m'adressant directement à des députés portugais. Mais ce n'est pas notre rôle. On nous
Oui, ça.
propasserait notre rôle, puisque ça, c'est le rôle de l'ambassadrice qui pourrait nous rappeler à l'ordre si jamais nous rentrions dans on va dire, considérations diplomatiques.
Non seulement c'est pas
Voilà.
votre rôle, mais en plus on imagine assez mal que le pouvoir politique portugais vous écoute, entre guillemets.
Bah, déjà, il ne nous connaît pas.
Voilà, oui,
Très
c'est ça,
peu.
oui.
Et s'il nous connaît, c'est parce que, entre guillemets, nous avons une implication dans la politique française qui fait qu'on peut avoir des relations privilégiées avec le parti frère. Voilà, tout le monde, même si la liste que je présente aujourd'hui est une liste étiquetée Français du Monde et soutenue par Français du Monde, tout le monde sait que je suis par ailleurs militant socialiste et qu'effectivement, ça me permet d'avoir des relations privilégiées avec le Parti socialiste portugais. Et pour revenir sur l'exemple du RNH, quand le dossier du RNH a surgi avec insistance notamment sur le projet de réforme et surtout sur le projet de requalification des RNH par la France, j'ai effectivement dialogué avec un certain nombre de députés portugais pour voir comment on pouvait sortir de l'impasse. Mais ce n'est pas à proprement dit mon rôle. Voilà. On le fait parce qu'on a cette possibilité-là, parce qu'on a des entrées quelquefois,
ouais.
Mais c'est pas la définition même de notre rôle.
Exactement, exactement. Ok. Quelques orientations, quelques données programmatiques, comme on dit, un petit peu de programme.
J'ai envie de dire que notre programme s'inscrit dans déjà l'action qui a été menée ces 7 dernières années. Je pense que nous avons un bilan à défendre et un bilan duquel nous n'avons pas à rougir. On est très fiers d'avoir accompli un certain nombre de choses justement sur les thématiques qu'on a évoquées auparavant, que ce soit sur la fiscalité justement, que ce soit sur l'éducation, sur l'employabilité des Français qui arrivent au Portugal, etc., etc. Et donc effectivement, le programme qu'on propose de développer pour les 5 prochaines années s'inscrit dans cette droite ligne. Ouais. Tout d'abord sur l'éducation, accompagner du mieux possible le projet d'extension. On constate depuis 2 ans que ce projet refait surface. C'est un projet que Francis Cacacho et moi-même avions proposé en 2015. Nous avions proposé notamment de racheter, ceux qui étaient là s'en souviennent, de racheter le bâtiment de l'Institut français. Qui était Avenida Luis Bivar pour localiser les classes du lycée dans ce bâtiment pour le garder dans le giron de la communauté française et pour pouvoir continuer de profiter du bel auditorium que nous avions. Ce projet a été refusé à l'époque puisqu'on nous disait qu'on n'avait pas la masse critique d'élèves pour pouvoir monter un tel projet. Et aujourd'hui, je vois que finalement, le projet d'extension du lycée français Charles-Pierre refait surface puisque le nombre d'élèves augmentant, il devient visiblement urgent de déménager les classes de lycée. Bon, évidemment, nous n'allons pas nous nédire et nous trouvons toujours que ce projet est une bonne chose. Et donc, nous souhaitons l'accompagner du mieux possible, notamment avec les éléments que nous avions développés à l'époque.
Enfin, on imagine le rachat d'un bâtiment existant aurait été 2 fois moins cher et alors qu'il est, le lycée français aurait des surfaces supplémentaires.
Sûrement. Surtout qu'à l'époque, le bâtiment... C'est surtout qu'à l'époque, Jean-Guillaume, si je peux me permettre, le bâtiment appartenait à la France, ouais. Et le lycée n'aurait eu besoin que de le remettre en état et être locataire. Il n'y avait pas besoin de racheter. Voilà, donc là, effectivement…
Beaucoup trop simple.
On va dire que pour ne pas être totalement critique, c'est vrai qu'en 2015, il y avait cette montée en charge de la population française au Portugal, mais l'agence n'avait pas… encore une lisibilité totale de ce que ça allait être. Aujourd'hui, on voit qu'il y a urgence effectivement à trouver de la surface supplémentaire pour le lycée, déjà parce qu'on est à l'étroit et aussi parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent. Je veux dire, l'approviseur a fait état hier du fait qu'il y ait encore 500 nouvelles demandes cette année pour entrer au lycée français. Donc, il y a effectivement urgence à trouver des surfaces supplémentaires. Donc, ça, c'est le premier point, on va dire, sur l'éducation. Le deuxième, c'est continuer à nous battre pour obtenir une meilleure participation de l'État dans le financement des lycées français à l'étranger. C'est un combat qu'on a mené notamment pour ma part à l'Assemblée des Français de l'étranger, mais on voit qu'il devient aussi prégnant et très urgent au lycée français Charles-Pierre compte tenu de la situation financière du lycée. Le désengagement de l'État ces 3 dernières années, notamment par la suppression de postes de résidents, a conduit à augmenter la charge financière sur les familles. Et aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Donc, il faut effectivement se battre pour obtenir une meilleure participation de l'État, notamment par un rétablissement d'un certain nombre de postes. Et enfin, le dernier point sur l'éducation, je dirais qu'on doit continuer à améliorer les choses d'un point de vue des bourses scolaires. On s'est beaucoup battu, on a été force de proposition sur ça pendant 7 ans, aussi bien au Conseil consulaire qu'à l'Assemblée des Français de l'étranger. On a obtenu l'augmentation... du seuil du patrimoine immobilier qui a été validé hier. C'était une proposition qu'on a fait en décembre. Donc, autrefois, le barème d'exclusion immobilier était à 250 000 euros. Depuis hier, il est à 300 000 euros. Et on a obtenu aussi l'augmentation de ce qu'on appelle le plafond maximum revenu, donc qui était à 21 000 et qui est passé à 23 000. Donc, tout ça a permis de faire rentrer plus de familles. Mais on doit continuer ce travail-là, effectivement, de toilettage du barème des bourses pour faire en sorte qu'il soit plus inclusif. Okay. Voilà, donc ça, c'était, la première grosse thématique. La deuxième, c'est, je pense, les affaires sociales. On voit toute la polémique qui a surgi cette dernière semaine sur les certificats de vie.
Ouais.
Nos retraités sont embêtés par l'établissement de ces documents. Donc, moi, sur les certificats de vie, je pense qu'il y a quelque chose à faire en urgence. Il y a un problème qui n'a jamais été réglé, entre guillemets, c'est que les conseillers consulaires sont ou ne sont pas, il y a un flou juridique, habilités à établir ces certificats de vie. Voilà.
D'accord. Votre proposition, c'était de rendre les conseillers consulaires, entre guillemets, compétents en la matière ?
Oui, comme les autres élus. En France, les élus locaux peuvent établir des certificats de vie.
D'accord.
On a un courrier de Marisol Touraine qui date de 2016 qui nous donne, on va dire, cette compétence-là, mais qui n'a jamais été traduit dans la loi. Donc, d'accord. Nous, on souhaiterait maintenant que ça soit traduit dans la loi pour pouvoir être utile à nos résidents, à nos retraités, établir une fois par an des certificats de vie sans qu'ils aient forcément besoin de se déplacer à la Junta de Trexia. Parce que ça se fait facilement à la Junta, mais le problème, c'est que derrière, ils doivent payer des frais de traduction, etc. etc. Si moi ou mes futurs collègues pouvions les établir par nous-mêmes, bah, ça éviterait certaines démarches administratives. Je pense qu'on peut l'obtenir assez facilement. Il y a déjà un courrier de ministre qui nous donne cette compétence. J'ai des collègues qui le font, mais sans aucun fondement juridique. Donc moi, je préférerais pouvoir le faire et que nous puissions le faire, que ce soit traduit dans la loi. Et je pense que la deuxième urgence, on l'a vu avec la crise du Covid, le Portugal n'a pas d'association de bienfaisance française. Et je pense que c'est un gros manque. On l'a vu au moment du Covid, puisque sur les 50 millions de fonds d'aide sociale exceptionnelle qui ont été attribués, elles ont été distribuées à travers ces associations de bienfaisance. Au Portugal, n'en étant pas doté dans un premier temps, comme je l'avais déjà expliqué dans votre antenne, nous n'avons rien reçu. Nous avons pu, entre guillemets, rattraper le coup, puisque c'est l'association française du monde ADFE Portugal qui a reçu une subvention de 30 000 euros pour financer des tablettes. Mais aujourd'hui, pour piloter d'autres projets, on a besoin d'avoir cette association de bienfaisance pour pouvoir aider nos aînés ou d'autres qui seraient dans le dénuement, frappés par la crise économique liée au Covid ou autre. Donc, je pense que c'est devenu aujourd'hui une urgence, la crise est venue le rappeler, et que nous devons nous mettre tous autour de la table, hein, quelle que soit notre obédience politique, les quatre conseillers consulaires qui seront élus en mai, et les associations déjà existantes, reconnues d'utilité publique, pour tous ensemble créer cette association de bienfaisance. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire de concret et qui est dans nos compétences, puisque c'est nous ensuite, en conseil consulaire des affaires sociales, qui feront remonter les demandes de subvention de chaque association de bienfaisance dans le monde. Donc nous n'en avons pas au Portugal depuis des années, ou du moins nous en avons une qui est totalement inopérante. Je pense qu'il est maintenant urgent d'en recréer une. Voilà. En termes d'emploi et formation professionnelle, c'est pareil. La crise du Covid est venue rappeler que certains Français se retrouvent soit au chômage, soit à la tête de restaurants, d'entreprises touristiques qui sont malheureusement qui traversent une sale période aujourd'hui. Oui, donc, je pense que il y a un conseil consulaire pour l'emploi et la formation professionnelle. Nous regrettons que depuis 2 ans, ils ne se soient pas réunis. Nous n'ayons pas pu débattre de ces sujets-là. C'est un champ de compétences important. Je pense que nous devons relancer ce conseil consulaire et que nous devons faire en sorte qu'il soit opérant pour trouver des solutions pour nos concitoyens. Comment faire en sorte qu'il soit opérant ? DFAE a redéployé les 1,1 million inutilisés du staff vers justement de l'aide aux auto-entrepreneurs. J'ai proposé ce lundi à l'ambassade et au consulat j'ai sollicité même une subvention pour obtenir une partie de ces 1,1 million pour les auto-entrepreneurs français au Portugal. Aujourd'hui, j'attends une réponse et j'espère qu'elle sera positive, puisqu'on en revient toujours au même problème. Nous n'avons pas d'association de bienfaisance, donc nous ne pouvons pas faire candidater l'association de bienfaisance à ce fonds. Or, je pense que nous sommes un des pays d'Europe où les entrepreneurs français sont le plus touchés par la crise du Covid du fait de leur implantation dans le secteur touristique. Donc, j'espère que cette demande de subvention sera acceptée, puisque nous avons jusqu'au 30 avril pour candidater pour ces subventions. Donc, nous l'avons fait via Français du Monde ADFE et j'espère que nous pourrons l'avoir.
L'association de bienfaisance, ce serait un petit peu le contenant, le réceptacle de tout type de subventions qui sont votée par le gouvernement français et qui serait en gros le tamis pour ensuite saupoudrer ces subventions sur les gens qui en ont besoin au Portugal.
Exactement,
D'accord.
exactement. Là, moi, ce que j'ai proposé et ce qui sera à faire, on va dire, par la prochaine équipe des conseillers des Français d'étranger, si on nous accorde cette subvention, donc c'est Français du monde Portugal qui servira de réceptacle, mais je veux, enfin, c'est pas à Français du monde Portugal de répartir cette subvention. Je veux que ce soit le travail des conseillers consulaires, par l'intermédiaire de ce conseil consulaire pour l'emploi et la formation
Bien sûr.
professionnelle, que nous devons relancer et qui sera, donc les quatre conseillers des Français d'étranger seront autour de la table, ainsi que la Chambre de commerce ou d'autres acteurs économiques qui pourront du coup essayer de sélectionner au mieux les dossiers des entrepreneurs qui nous auront contactés parce qu'ils sont en difficulté. Mais on a ce vrai problème juridique de base, c'est que nous n'avons plus d'association de bienfaisance qui est opérante aujourd'hui au Portugal.
Et donc, on ne peut pas recueillir les subventions et ensuite les répercuter aux gens qui en ont besoin.
Effectivement, je pense que c'est un problème majeur.
OK.
En fait, dernier point, enfin, dernier point, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais on va dire
Oui.
dernier point qui pour nous est important depuis ces temps et sur lequel nous continuerons d'essayer de travailler, c'est l'accès à la culture française. Voilà, l'accès à la culture française, on l'a plus ou moins évoqué quand on a parlé du problème éducatif, a été très fortement impacté par la fermeture du bâtiment historique de l'Institut français. C'était un bâtiment où les associations reconnues d'utilité publique, que ce soit l'UFE, que ce soit Français du Monde, que ce soit Lisbonne Accueil à une certaine époque, utilisaient notamment l'auditorium pour organiser des spectacles, pour mettre de la culture française à disposition de la communauté française au Portugal. Aujourd'hui, c'est plus difficile puisqu'on n'a pas accès à ces bâtiments, mais on a essayé pendant ces 7 années de mettre en œuvre des manifestations culturelles. On a fait venir des artistes de France, on a fait venir des troupes de théâtre, on a fait venir des chanteurs. On se propose de continuer à faire ça. On a organisé la fête de la musique dans laquelle vous étiez partie prenante. C'est des choses que nous voudrions continuer à faire, pour lesquelles on a déjà contacté un certain nombre d'artistes et qu'on espère pouvoir faire si la situation sanitaire le permet, bien évidemment. Pour l'instant, sur ces 2 dernières années, sur cette dernière année, on avait des projets qui n'ont pas pu voir le jour parce que la situation sanitaire ne l'a pas permis. Mais,
Oui, bien sûr.
par exemple, l'an dernier, le 28 septembre, le 20, pas le 28 septembre, le 28 mars 2020, il y avait un artiste franco-suisse qui devait venir faire un concert. Malheureusement, on n'a pas pu le tenir puisqu'on s'est retrouvé en confinement et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu reprogrammer. Mais voilà, on se propose de mettre à disposition, on va dire, notre modeste carnet d'adresses culturelles pour le mettre à disposition de la communauté française et essayer d'organiser des moments de convivialité et des moments d'accès à la culture le plus large possible pour la communauté française au Portugal.
Eh bien, écoutez, merci Mehdi Benlassane pour cette présentation très exhaustive et très détaillée et
Merci à
votre
vous.
liste et votre programme. Et puis, ben, rendez-vous le 30 mai.
Alors, rendez-vous le 30 mai pour le vote à l'urne. Rendez-vous du 21 au 26 mai pour le vote par Internet. Je rappelle que vos auditeurs ont jusqu'au 23 avril pour s'inscrire pour le vote en ligne.
Sur les
Je me
listes.
permets une précision puisque j'ai la chance d'être président de la commission électorale. C'est que les personnes qui s'inscriront cette année pour voter au Portugal pour l'élection des conseillers des Français étrangers ne pourront malheureusement pas voter pour les élections régionales et départementales en France, si tant est qu'elles sont maintenues en juin, puisque vous le savez, il y a une réforme du corps électoral qui fait que vous devez vous réinscrire jusqu'à 6 semaines avant un scrutin. Le délai entre les deux scrutins est de 4 semaines. Donc, les personnes qui se sont inscrites le 23 avril pour voter au Portugal ne pourront pas voter en France aux régionales et départementales. Je pense que c'est important qu'il faut le savoir.
Absolument. Merci beaucoup, Mehdi.
Mais merci à vous.
À bientôt, au revoir.
À bientôt.